Malebranche, de la recherche de la vérité, livre second, troisième partie, chapitre 4. De l'imagination de Sénèque. L'imagination de Sénèque n'est quelquefois pas mieux réglée que celle de Tertullien. Ses mouvements impétueux l'emportent souvent dans des pays qui lui sont inconnus, où néanmoins il marche avec la même assurance que s'il savait où il est et où il va. Pourvu qu'il fasse de grands pas, des pas figurés et dans une juste cadence, il s'imagine qu'il avance beaucoup. Mais il ressemble à ceux qui dansent, qui finissent toujours où ils ont commencé. Il faut bien distinguer la force et la beauté des paroles de la force et de l'évidence des raisons. Il y a sans doute beaucoup de force et quelque beauté dans les paroles de Sénèque. Mais il y a très peu de force et d'évidence dans ses raisons. Il donne, par la force de l'imagination, un certain tour à ses paroles, qui touchent, qui agitent, et qui persuadent par impression. Mais il ne leur donne pas cette netteté, cette lumière pure, qui éclaire et qui persuade par évidence. Il convainc parce qu'il émeut, et parce qu'il plaît. Mais je ne crois pas qu'il lui arrive de persuader ceux qui le peuvent lire de sang-froid, qui prennent garde à la surprise, et qui ont coutume de ne se rendre qu'à la clarté et à l'évidence des raisons. En un mot, il se met peu en peine de ce qu'il dit, comme si on pouvait bien parler sans savoir ce qu'on dit. Et ainsi, il persuade sans que l'on sache souvent ni de quoi, ni comment on est persuadé, comme si on devait jamais se laisser persuader de quelque chose sans le concevoir distinctement et sans avoir examiné les preuves qui le démontrent. Qu'y a-t-il de plus pompeux et de plus magnifique que l'idée qu'il nous donne de son sage? Mais qu'y a-t-il au fond de plus vain et de plus imaginaire? Le portrait qu'il fait de Caton est trop beau pour être naturel. Ce n'est que du fard et que du plâtre qui ne donnent dans la vue que de ceux qui n'étudient et qui ne connaissent point la nature. Caton était un homme, sujet à la misère des hommes. Il n'était point invulnérable, c'est une idée. Ce qui le frappait, le blessait. Il n'avait ni la dureté du diamant, que le fer ne peut briser, ni la fermeté des rochers, que les flots ne peuvent ébranler, comme Sénèque le prétend. En un mot, il n'était point insensible. Et le même Sénèque se trouve obligé d'en tomber d'accord, lorsque son imagination s'est un peu refroidie, et qu'il fait davantage de réflexion à ce qu'il dit. Ainsi dit-il, « Aussi, peu importe tous les traits qu'on lance sur lui, puisqu'aucun d'eux ne peut pénétrer. De même que certaines pierres sont d'une dureté inattaquable au fer, le diamant par exemple, qui ne peut être ni coupé, ni entamé, ni même usé, mais qui fait rejaillir tout ce qui le frappe, de même que les rochers avancés dans la mer brisent les vagues et fouettés depuis tant de siècles, ne montrent pas trace de ces attaques, de même l'âme du sage a de la solidité et a rassemblé en elle tant d'énergie qu'il est à l'abri de l'injustice, tout autant que sont à l'abri des coups les corps que je viens de citer. » Mais quoi donc ? N'accordera-t-il pas que son sage peut devenir misérable, puisqu'il accorde qu'il n'est pas insensible à la douleur? Non, sans doute. La douleur ne touche pas son sage. La crainte de la douleur ne l'inquiète pas. Son sage est au-dessus de la fortune et de la malice des hommes. Ils sont incapables de l'inquiéter. Il n'y a point de murailles et de tours dans les plus fortes places que les béliers et les autres machines ne fassent trembler et ne renversent avec le temps. Mais il n'y a point de machine assez puissante pour ébranler l'esprit de son sage. Ne lui comparez pas les murs de Babylone, qu'Alexandre a forcés, ni ceux de Carthage et de Numance, qu'un même bras a renversés, ni enfin le Capitole et la citadelle qui portent encore à présent des marques que les ennemis s'en sont rendus les maîtres. Les flèches que l'on tire contre le soleil ne montent pas jusqu'à lui. Les sacrilèges que l'on commet lorsque l'on renverse les temples et qu'on en brise les images ne nuisent pas à la divinité. Les dieux même peuvent être accablés sous les ruines de leurs temples. Mais son sage n'en sera pas accablé, ou plutôt, s'il en est accablé, ce n'est pas possible qu'il en soit blessé. Ainsi, dit-il, pour vous le prouver, voici que sur les ordres d'un destructeur de tant de villes, les fortifications s'écroulent sous le choc des béliers, les tours élevées s'affaissent subitement par l'effet des mines et des galeries souterraines, les citadelles les plus hautes sont contrebalancées par les terrasses qu'élève l'assaillant. Et pourtant, on ne peut trouver de machine de guerre qui agite une âme solidement assise. Et plus bas, ne va pas comparer celle-ci au mur de Babylone, où pénétra Alexandre, ni aux fortifications de Carthage ou de Numance, prises par une seule troupe, ni au Capitole ou à sa citadelle. Elle porte les traces de l'ennemi. Crois-tu qu'une seule des flèches que ce roi insensé faisait envoyer en grand nombre pour obscurcir le jour ait atteint le soleil? De même que les choses du ciel échappent aux mains des hommes, et que, détruisant les temples ou en faisant fondre les statues des dieux, on ne nuit en rien à la divinité, de même les insultes, les railleries, l'attitude orgueilleuse sont, contre le sage, de vaines tentatives. Au milieu du fracas des temples, s'écroulant sur leur propre dieu, un seul homme resta en paix. Mais ne croyez pas, dit Sénèque, que ce sage que je vous dépeins ne se trouve nulle part. Ce n'est pas une fiction pour élever sottement l'esprit des hommes. Ce n'est pas une grande idée sans réalité et sans vérité. Peut-être même que Caton passe cette idée. Ainsi, dit-il, ne va pas dire, comme tu en as l'habitude, que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n'est pas une vaine dignité de l'esprit humain que nous feignons, une grande représentation d'une réalité imaginaire que nous concevons. Nous te l'avons montré, et nous te le montrerons tel que nous assurons qu'il est. D'ailleurs, ce monsieur Caton lui-même, je crains qu'il ne soit au-dessus de notre modèle. Mais il me semble, continue-t-il, que je vois que votre esprit s'agite, s'échauffe. Vous voulez dire peut-être que c'est se rendre méprisable que de promettre des choses qu'on ne peut ni croire ni espérer, et que les stoïciens ne font que changer le nom des choses afin de dire les mêmes vérités d'une manière plus grande et plus magnifique. Mais vous vous trompez, je ne prétends pas élever le sage par ses paroles magnifiques et spécieuses, je prétends seulement qu'il est dans un lieu inaccessible et dans lequel on ne peut le blesser. Ainsi Sénèque, dit-il, je crois voir ta pensée s'échauffer et se soulever d'indignation. Tu es prête à t'écrier, voilà ce qui enlève toute autorité à vos préceptes. Vous faites de grandes promesses, qui vont même au-delà de nos souhaits, bien loin que nous puissions y croire. Et plus bas, ainsi, avec vos sourcils haut levés, vous êtes au même niveau que les autres. Les mots seuls changent. Ainsi, je soupçonne qu'il y a quelque chose de pareil dans votre formule, si belle et si splendide au premier abord. Le sage ne sera atteint ni par l'injustice, ni par l'insulte. Et plus bas, pour moi, j'ai décidé de ne pas parer le sage d'une dignité imaginaire toute verbale, mais de le placer en un lieu où l'injustice n'arrive pas jusqu'à lui. Voilà jusqu'où l'imagination vigoureuse de Sénèque emporte sa faible raison. Mais se peut-il faire que des hommes qui sentent continuellement leur misère et leur faiblesse puissent tomber dans des sentiments si fiers et si vains? Un homme raisonnable peut-il jamais se persuader que sa douleur ne le touche et ne le blesse? Et Caton, tout sage et tout fort qu'il était, pouvait-il souffrir sans quelque inquiétude, ou au moins sans quelque distraction? Je ne dis pas les injures atroces d'un peuple enragé qui le traîne, qui le dépouille et qui le maltraite de coups, mais les piqûres d'une simple mouche. Qu'y a-t-il de plus faible contre des preuves aussi fortes et aussi convaincantes que celles de notre propre expérience? Que cette belle raison de Sénèque, laquelle est cependant une de ses principales preuves? Ce qui blesse, dit-il, doit être plus fort que ce qui est blessé. Le vice n'est pas plus fort que la vertu, donc le sage ne peut être blessé. Car il n'y a qu'à répondre, ou que tous les hommes sont pécheurs, et par conséquent dignes de la misère qu'ils souffrent, ce que la religion nous apprend, ou que si le vice n'est pas plus fort que la vertu, les vicieux peuvent avoir quelquefois plus de force que les gens de bien, comme l'expérience nous le fait connaître. Ainsi dit-il, enfin, ce qui porte le dommage doit avoir plus de force que l'être à qui le dommage est porté. Or, le vice n'est pas plus fort que la vertu. Le sage ne peut donc subir de dommage. Seuls les méchants tentent d'être injustes avec les gens de bien. Les bons sont en paix les uns avec les autres. Si le plus faible peut seul subir un dommage, si le méchant est plus faible que le bon, si enfin l'injustice n'est à craindre pour les bons que d'hommes qui ne leur sont pas égaux, l'injustice ne peut atteindre l'homme sage. Épicure avait raison de dire que les offenses étaient supportables à un homme sage. Mais Sénèque a tort de dire que les sages ne peuvent pas même être offensés. La vertu des stoïques ne pouvait pas les rendre invulnérables, puisque la véritable vertu n'empêche pas qu'on soit misérable et digne de compassion dans le temps qu'on souffre quelque mal. Saint Paul et les premiers chrétiens avaient plus de vertus que Caton et que les stoïciens. Ils avouaient néanmoins qu'ils étaient misérables par les peines qu'ils enduraient, quoiqu'ils fussent heureux dans l'espérance d'une récompense éternelle. Si tantum in ac vita sperantes sumus, miserabiliores sumus hominibus hominibus, dit saint Paul. Comme il n'y a que Dieu qui nous puisse donner par sa grâce une véritable et solide vertu, il n'y a aussi que lui qui puisse nous faire jouir d'un bonheur solide et véritable. Mais il ne le promet et ne le donne pas dans cette vie. C'est dans l'autre qu'il faut l'espérer de sa justice, comme la récompense des misères qu'on a souffertes pour l'amour de lui. Nous ne sommes pas à présent dans la possession de cette paix et de ce repos que rien ne peut troubler. La grâce même de Jésus-Christ ne nous donne pas cette force invincible. Elle nous laisse d'ordinaire sentir notre propre faiblesse, pour nous faire connaître qu'il n'y a rien au monde qui ne puisse nous blesser, et pour nous faire sentir et souffrir avec une patience humble et modeste toutes les injures que nous recevons, et non pas avec une patience fière et orgueilleuse semblable à la constance du superbe Caton. Lorsqu'on frappe à Caton au visage, il ne se fâcha point. Il ne se vengea point. Il ne pardonna point aussi. Mais il nia fièrement qu'on lui eût fait quelque injure. Il voulait qu'on le crût infiniment au-dessus de ceux qui l'avaient frappé. Sa patience n'était qu'orgueil et que fierté. Elle était choquante et injurieuse pour ceux qui l'avaient maltraité. Et Caton marquait par cette patience de stoïque qu'il regardait ses ennemis comme des bêtes contre lesquelles il est honteux de se mettre en colère. C'est ce mépris de ses ennemis et cette grande estime de soi-même que Sénèque appelle grandeur de courage. « Maiori animo, dit-il, parlant de l'injure qu'on fit à Caton, non agnovit quam ignovisset. Quel excès de confondre la grandeur de courage avec l'orgueil et de séparer la patience d'avec l'humilité pour la joindre avec une fierté insupportable. Mais que ces excès flattent également la vanité de l'homme qui ne veut jamais s'abaisser et qu'il est dangereux, principalement à des chrétiens, de s'instruire de la morale dans un auteur aussi peu judicieux que Sénèque. Mais dont l'imagination est si forte, si vive, si impérieuse, qu'elle éblouit, qu'elle étourdit et qu'elle entraîne tous ceux qui ont peu de fermeté d'esprit et beaucoup de sensibilité pour tout ce qui flatte la concupiscence de l'orgueil. Que les chrétiens apprennent plutôt de leur maître, que des impies sont capables de les blesser et que des gens de bien sont quelquefois assujettis à ces impies par l'ordre de la Providence. Lorsqu'un des officiers du grand prêtre donna un soufflet à Jésus-Christ, ce sage des chrétiens, infiniment sage et même aussi puissant qu'il est sage, confesse que ce valet a été capable de le blesser. Il ne se fâche pas, il ne se venge pas comme Caton, mais il pardonne comme ayant été véritablement offensé. Il pouvait se venger et perdre ses ennemis, mais il souffre avec une patience humble et modeste, qui n'est injurieuse à personne, ni même à ce valet qui l'avait offensé. Caton, au contraire, ne pouvant ou n'osant tirer de vengeance réelle de l'offense qu'il avait reçue, tâche d'en tirer une imaginaire et qui flatte sa vanité et son orgueil. Il s'élève en esprit jusque dans les nues, il voit de là les hommes d'ici-bas petits comme des mouches. Et il les méprise comme des insectes incapables de l'avoir offensé et indignes de sa colère. Cette vision est une pensée digne du sage Caton. C'est elle qui lui donne cette grandeur d'âme, cette fermeté de courage et qui le rend semblable aux dieux. C'est elle qui le rend invulnérable, puisque c'est elle qui le met au-dessus de toute la force et de toute la malignité des hommes. Pauvre Caton, tu t'imagines que ta vertu t'élève au-dessus de toute chose, ta sagesse n'est que folie, et ta grandeur qu'abomination envers Dieu, quoi qu'en pensent les sages du monde. Il y a des visionnaires de plusieurs espèces. Les uns s'imaginent qu'ils se sont transformés en coqs ou en poules. D'autres croient qu'ils sont devenus rois ou empereurs. D'autres, enfin, se persuadent qu'ils sont indépendants et comme des dieux. Mais si les hommes regardent toujours comme des fous ceux qui assurent qu'ils sont devenus coqs ou rois, ils ne pensent pas toujours que ceux qui disent que leur vertu les rend indépendants et égaux à Dieu soient véritablement visionnaires. La raison en est que, pour être estimé fou, il ne suffit pas d'avoir de folles pensées. Il faut, outre cela, que les autres hommes prennent les pensées que l'on a pour des visions et pour des folies. Car les fous ne passent pas pour ce qu'ils sont, parmi les fous qui leur ressemblent, mais seulement parmi les hommes raisonnables. De même que les sages ne passent pas pour ce qu'ils sont parmi des fous. Les hommes reconnaissent donc pour fous ceux qui s'imaginent être devenus coqs ou rois, parce que tous les hommes ont raison de ne pas croire qu'on puisse si facilement devenir coq ou roi. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que les hommes croient pouvoir devenir comme des dieux. Ils l'ont cru de tout temps, et peut-être plus qu'ils ne le croient aujourd'hui. La vanité leur a toujours rendu cette pensée assez vraisemblable. Ils la tiennent de leurs premiers parents, car, sans doute, nos premiers parents étaient dans ce sentiment lorsqu'ils obéirent au démon qui les tenta par la promesse qu'il leur fit qu'ils deviendraient semblables à Dieu. Eritis sicut dii. Les intelligences même les plus pures et les plus éclairées ont été si fort aveuglées par leur propre orgueil qu'ils ont désiré et peut-être cru pouvoir devenir indépendants et même former le dessein de monter sur le trône de Dieu. Ainsi, il ne faut point s'étonner si les hommes qui n'ont ni la pureté ni la lumière des anges s'abandonnent au mouvement de leur vanité qui les aveugle et les séduit. Si la tentation pour la grandeur et pour l'indépendance est la plus forte de toutes, c'est qu'elle nous paraît comme à nos premiers parents, assez conforme à notre raison, aussi bien qu'à notre inclination, à cause que nous ne sentons pas toujours toute notre dépendance. Si le serpent eût menacé nos premiers parents en leur disant « Si vous ne mangez du fruit dont Dieu vous a défendu de manger, vous serez transformés, vous en coq et vous en poule. » On ne craint pas d'assurer qu'ils se fussent raillés d'une tentation si grossière, car nous nous en raillerions nous-mêmes. Mais le démon jugeant des autres par lui-même savait bien que le désir de l'indépendance était le faible par où il les fallait prendre. Au reste, comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et que notre bonheur est d'être semblables à Dieu, on peut dire que la magnifique et intéressante promesse du démon est la même que celle que la religion nous propose et qu'elle s'accomplira en nous. Non comme le disait le menteur et l'orgueilleux tentateur, en désobéissant à Dieu, mais en suivant ses ordres. La seconde raison qui fait qu'on regarde comme fou ceux qui assurent qu'ils sont devenus coq ou roi, et qu'on n'a pas la même pensée de ceux qui assurent que personne ne peut les blesser parce qu'ils sont au-dessus de la douleur, c'est qu'il est visible que les hypochondriaques se trompent et qu'il ne faut qu'ouvrir les yeux pour avoir des preuves sensibles de leur égarement. Mais lorsque Caton assure que ceux qui l'ont frappé ne l'ont point blessé, et qu'il est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut faire, il l'assure, ou il peut l'assurer avec tant de fierté et de gravité qu'on ne peut affirmer s'il est effectivement tel au-dedans qu'il paraît être au-dehors. On est même porté à croire que son âme n'est point ébranlée à cause que son corps demeure immobile. Parce que l'air extérieur de notre corps est une marque naturelle de ce qui se passe dans le fond de notre âme. Ainsi, quand un hardi menteur ment avec beaucoup d'assurance, il fait souvent croire les choses les plus incroyables, parce que cette assurance avec laquelle il parle est une preuve qui touche les sens et qui, par conséquent, est très forte et très persuasive pour la plupart des hommes. Il y a donc peu de personnes qui regardent les stoïciens comme des visionnaires ou comme de hardis menteurs, parce qu'on n'a pas de preuves sensibles qui imposent facilement. Outre que la vanité nous porte à croire que l'esprit de l'homme est capable de cette grandeur et de cette indépendance dont il se vante. Tout cela fait voir qu'il y a peu d'erreurs plus dangereuses et qui se communiquent aussi facilement que celles dont les livres de Sénèque sont remplis. Parce que ces erreurs sont délicates, proportionnées à la vanité de l'homme et semblables à celles dans laquelle le démon engagea nos premiers parents. Elles sont revêtues dans ces livres d'ornements pompeux et magnifiques qui leur ouvrent le passage dans la plupart des esprits. Elles y rentrent, elles s'en emparent, elles les étourdissent et les aveuglent. Mais elles les aveuglent d'un aveuglement superbe, d'un aveuglement éblouissant, d'un aveuglement accompagné de lueur, et non pas d'un aveuglement humiliant et plein de ténèbres qui fait sentir qu'on est aveugle et qui le fait reconnaître aux autres. Quand on est frappé de cet aveuglement d'orgueil, on se met au nombre des beaux esprits et des esprits forts. Les autres même nous y mettent et nous admirent. Ainsi, il n'y a rien de plus contagieux que cet aveuglement. Parce que la vanité et la sensibilité des hommes, la corruption de leurs sens et de leurs passions, les disposent à rechercher d'en être frappés et les excitent à en frapper les autres. Je ne crois pas qu'on puisse trouver d'auteur plus propre que Sénèque pour faire connaître quelle est la contagion d'une infinité de gens qu'on appelle beaux esprits ou esprits forts, et comment les imaginations fortes et vigoureuses dominent sur les esprits faibles et peu éclairés. Non par la force et l'évidence des raisons, qui sont des productions de l'esprit, mais par le tour et la manière vive de l'expression qui dépend de la force de l'imagination. Je sais bien que cet auteur a beaucoup d'estime dans le monde et comprendra pour une espèce de témérité de ce que j'en parle comme d'un homme fort imaginatif et peu judicieux. Mais c'est principalement à cause de cette estime que j'ai entrepris d'en parler. Non par une espèce d'envie ou par humeur, mais parce que l'estime qu'on lui fait touchera davantage les esprits et leur fera faire attention aux erreurs que j'ai combattues. Il faut autant qu'on peut apporter des exemples illustres des choses qu'on dit, lorsqu'elles sont de conséquence. Et c'est quelquefois faire honneur à un livre que de le critiquer. Mais enfin, je ne suis pas le seul qui trouve à redire dans les écrits de Sénèque. Car, sans parler de quelques illustres de ce siècle, il y a près de 1600 ans, qu'un auteur très judicieux a remarqué qu'il y avait peu d'exactitude dans sa philosophie, peu de discernement et de justesse dans son élocution, et que sa réputation était plutôt l'effet d'une ferveur et d'une inclination indiscrète de jeunes gens que d'un contentement de personnes savantes et bien sensées. Il est inutile de combattre par des écrits publics des erreurs grossières, parce qu'elles ne sont point contagieuses. Il est ridicule d'avertir les hommes que les hypochondriaques se trompent. Ils le savent assez. Mais si ceux dont ils font beaucoup d'estime se trompent, il est toujours utile de les en avertir, de peur qu'ils ne suivent leurs erreurs. Or, il est visible que l'esprit de Sénèque est un esprit d'orgueil et de vanité. Ainsi, puisque l'orgueil, selon l'Écriture, est la source du péché, initium peccati superbia, l'esprit de Sénèque ne peut être l'esprit de l'Évangile, ni sa morale s'allier avec la morale de Jésus-Christ, laquelle seule est solide et véritable. Il est vrai que toutes les pensées de Sénèque ne sont pas fausses ni dangereuses. Cet auteur se peut lire avec profit par ceux qui ont l'esprit juste et qui savent le fond de la morale chrétienne. De grands hommes s'en sont servis utilement, et je n'ai garde de condamner ceux pour qui s'accommoder à la faiblesse des autres hommes, qui avaient trop d'estime pour lui, ont tiré des ouvrages de cet auteur des preuves pour défendre la morale de Jésus-Christ et pour combattre ainsi les ennemis de l'Évangile par leurs propres armes. Il y a de bonnes choses dans l'Alcoran, et l'on trouve des prophéties véritables dans les centuries de Nostradamus. On se sert de l'Alcoran pour combattre les religions des Turcs, et l'on peut se servir des prophéties de Nostradamus pour convaincre quelques esprits bizarres et visionnaires. Mais ce qu'il y a de bon dans l'Alcoran ne fait pas que l'Alcoran soit un bon livre. et quelques véritables explications des centuries de Nostradamus ne feront jamais passer Nostradamus pour un prophète. Et l'on ne veut pas dire que ceux qui se servent de ces auteurs les approuvent, ou qu'ils aient pour eux une véritable estime. On ne doit pas prétendre combattre ce que j'ai avancé de Sénèque en rapportant un grand nombre de passages de cet auteur, qui ne contiennent que des vérités solides et conformes à l'Évangile. Je tombe d'accord qu'il y en a. Mais il y en a aussi dans l'Alcoran, et dans les autres méchants livres. On aurait tort de même de m'accabler de l'autorité d'une infinité de gens qui se sont servis de Sénèque, parce qu'on peut quelquefois se servir d'un livre que l'on croit impertinent, pourvu que ceux à qui l'on parle n'emportent pas le même jugement que nous. Pour ruiner toute la sagesse des stoïques, il ne faut savoir qu'une seule chose, qui est assez prouvée par l'expérience et par ce que l'on a déjà dit. C'est que nous tenons à notre corps, à nos parents, à nos amis, à notre prince, à notre patrie, par des liens que nous ne pouvons rompre, et que même nous aurions honte de tâcher de rompre. Notre âme est unie à notre corps, et par notre corps, à toutes les choses visibles par une main si puissante qu'il est impossible par nous-mêmes de nous en détacher. Il est impossible qu'on pique notre corps sans que l'on nous pique et que l'on nous blesse nous-mêmes. Parce que dans l'état où nous sommes, cette correspondance de nous avec le corps, qui est à nous, est absolument nécessaire. De même, il est impossible que l'on nous dise des injures et qu'on nous méprise sans que nous en sentions du chagrin. Parce que Dieu nous ayant fait pour être en société avec les autres hommes, il nous a donné une inclination pour tout ce qui est capable de nous lier avec eux, laquelle nous ne pouvons vaincre par nous-mêmes. Il est chimérique de dire que la douleur ne nous blesse pas et que les paroles de mépris ne sont pas capables de nous offenser, parce qu'on est au-dessus de tout cela. On n'est jamais au-dessus de la nature, si ce n'est par la grâce. Et jamais stoïque ne méprisa la gloire et l'estime des hommes par les seules forces de son esprit. Les hommes peuvent bien vaincre leurs passions par des passions contraires. Ils peuvent vaincre la peur ou la douleur par vanité. Je veux dire seulement qu'ils peuvent ne pas fuir ou ne pas se plaindre lorsque, se sentant en vue à bien du monde, le désir de la gloire les soutient et arrête dans leur corps les mouvements qui les portent à la fuite. Ils peuvent vaincre de cette sorte, mais ce n'est pas là vaincre, ce n'est pas là se délivrer de la servitude, c'est peut-être changer de maître pour quelque temps, ou plutôt, c'est étendre son esclavage, c'est devenir sage, heureux et libre seulement en apparence, et souffrir en effet une dure et cruelle servitude. On peut résister à l'union naturelle que l'on a avec son corps par l'union que l'on a avec les hommes. Parce qu'on peut résister à la nature par les forces de la nature. On peut résister à Dieu par les forces que Dieu nous donne. Mais on ne peut résister par les forces de son esprit. On ne peut entièrement vaincre la nature que par la grâce. Parce qu'on ne peut, s'il est permis de parler ainsi, vaincre Dieu que par un secours particulier de Dieu. Ainsi, cette division magnifique de toutes les choses qui ne dépendent pas de nous et desquelles nous ne devons pas dépendre est une division qui semble conforme à la raison, mais qui n'est point conforme à l'état déréglé auquel le péché nous a réduits. Nous sommes unis à toutes les créatures par l'ordre de Dieu et nous en dépendons absolument par le désordre du péché. De sorte que nous ne pouvons être heureux lorsque nous sommes dans la douleur et dans l'inquiétude, nous ne devons point espérer d'être heureux dans cette vie en nous imaginant que nous ne dépendons point de toutes les choses desquelles nous sommes naturellement esclaves. Nous ne pouvons être heureux que par une foi vive et par une forte espérance qui nous fasse jouir par avance des biens futurs. Et nous ne pouvons vivre selon les règles de la vertu et vaincre la nature si nous ne sommes soutenus par la grâce que Jésus-Christ nous a méritée.